Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Par les temps qui courent, tous les soirs, une heure de conversation, ce soir avec Céline Sciamma.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout à pépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Céline Sciamma.
Des femmes qui chantent pour elles-mêmes, dans la nuit noire d'une plage, au bord d'un feu, au bord de l'eau, peuvent sembler menaçantes. Le bourdon de leur voix qui s'accorde peut ressembler à l'orage qui gronde, et ce qui menace, c'est leur joie, c'est leur façon d'être solidaire et leur vitalité. La puissance que confère l'art et le choix des représentations est au cœur de votre dernier film, Céline Sciamma. En 1770, on sort une femme du couvent pour la marier, on fait appel à une artiste pour la peindre en secret, à destination du futur époux. Plusieurs choses, dont l'amour, vont apparaître une première fois, se métamorphoser, apparaître une dernière fois, puis elles vont s'évanouir pour laisser le poème et l'art faire avec leurs souvenirs. Il n'y a plus vraiment d'histoire de peintre et de modèle dans ce portrait que vous filmez, puisqu'elles sont ces femmes à égalité face aux différents choix qu'impose la question du regard. Bonsoir à vous, Céline Sciamma.
Bonsoir.
Portrait de la jeune fille en feu a reçu au Festival de Cannes 2019, c'est vous en fait, le prix du scénario, mais aussi la Queer Palm, et Claire Maton, qui est la chef opératrice, a été récompensée pour son travail, le prix CST de l'artiste technicien. C'est un film qui va être en salle la semaine prochaine, mercredi prochain, et vous serez au micro des matins chez Guillaume Erner le même jour. Il y a du temps qui existe, qui passe, qu'on imagine danse entre vos films, Céline Sciamma, qu'on imagine plein de prises de notes du monde, de vous, de questions. Est-ce que vous sauriez en dire quelques-unes qui ont présidé à l'écriture de ce film-là?
Oui, je les ai assez en tête. Y compris parce que j'ai commencé à archiver. Et puis, y compris parce qu'on se prépare à ce genre d'exercice, de discussion. Et c'est toujours bien de revenir au point de départ, comme on vous le demande souvent. Et qu'en fait, avec la distance, parfois on l'oublie. Et donc, j'ai retrouvé une des premières feuilles de notes, vraiment, où il y a écrit... il y a écrit qu'il y aura l'océan. Il y a écrit qu'il y aura des femmes qui chantent. Il y a écrit qu'il y aura la Bretagne, ça c'est écrit. Il y a écrit qu'il y aura Vivaldi. Il y a écrit qu'il y aura une femme qui sera dans un cadre et qui passera dans le cadre de l'autre. Donc il y a déjà des scènes en réalité. Apparemment, ça commence par les scènes. Et les scènes sont des boussoles aussi pour après penser les films. Il y avait le titre aussi, qui était sur cette première page. Ça m'a surprise de me rendre compte qu'il était là depuis le début.
Il y a plein de choses auxquelles vous êtes restée très fidèle, en fait.
Effectivement, et pour autant, c'est le film qui m'a pris auquel j'ai consacré la plus longue rêverie, il y a 5 ans, qui sépare mes deux films. Alors, c'est 5 années qui n'ont pas été exclusivement consacrées à y réfléchir, mais c'est du temps qui a été pris volontairement pour faire la synthèse, pour trouver la forme nouvelle. Qui donnerait corps à cette histoire et aux multiples désirs qui traversent cette histoire. C'est un film à la fois extrêmement sentimental, très intime, très proche de moi, et puis politique aussi, bien sûr, et puis de toujours essayer d'inventer l'objet le plus contemporain possible. Et quand on fait ce pas de côté, quand on joue à ce jeu de regarder le passé, alors cette exigence, elle est d'autant plus forte.
On y reviendra parce que c'est un contemporain qui existe en fait au XVIIIe siècle. Enfin, je sais pas, vos femmes, elles sont à beaucoup d'âges en même temps, à beaucoup d'époques en même temps, et elles sont pas coincées dans leur XVIIIe siècle. En tout cas, on ne les regarde pas comme ça. Vous parlez de cette rêverie de 5 ans. Est-ce que c'est un temps qui est difficile à prendre ou à se donner ou à installer, peut-être pour les gens aussi avec qui on est obligé de discuter quand on fait ce métier-là?
Mais disons que j'ai beaucoup écrit pour les autres aussi pendant ce temps-là. Donc il y a un délai que je me suis accordé et puis c'était par moments qui m'a dépassé, débordé. Donc c'était pas totalement un choix. 5 ans, j'ai trouvé ça un peu long, si je suis sincère. Mais j'ai la chance d'avoir j'ai la chance de pouvoir faire des films pas pour forcément gagner ma vie, mais pour la vivre et d'être en partenariat, en discussion avec ma productrice Bénédicte Couvreur depuis 4 films et sa patience, c'est une attente pleine de désir aussi. Donc je suis accompagnée dans les temporalités qui me vont.
Et vous dites des choses, vous échangez au fur et à mesure que les choses s'esquissent avec précision entre « je vais filmer la mer, la Bretagne, des femmes qui chantent » et puis en fait « j'avance un peu, ça va ressembler à ça ». C'est toujours un travail qui est en dialogue ?
Oui, c'est un travail qui est en dialogue et aussi beaucoup, comme le cinéma, se pense en chambre et ne se fabrique pas du tout en chambre. Un dialogue aussi sur l'échelle du film, sur la production. Quand en plus on se lance dans un film qui va engager de la reconstitution, déjà que le cinéma c'est cher quand on filme le contemporain, alors là c'est encore d'autres questions. Donc c'est aussi un dialogue sur l'échelle du film, qu'est-ce qu'on va penser, quel va être le dispositif, où est-ce qu'on va mettre l'argent et comment on va faire de la beauté tout en étant dans des budgets de combat, de résistance pour s'éviter les compromis et être le plus libre possible. Donc c'est un dialogue qui prend forme comme ça aussi.
Parce que c'est vraiment pas du tout un film qui respire l'argent. Alors, je sais pas si vous a coûté beaucoup plus cher que les autres, mais au contraire, moi, j'ai pas arrêté de me dire qu'il y avait une économie qui était rêche.
Elle est rêche, elle est à l'os. J'ai eu l'argent dont j'avais besoin pour faire ce film, mais c'est un film qui est vraiment pas cher, et surtout quand on regarde combien coûte un film historique, comme on dit. C'est le plus cher de mes films, parce que par ailleurs, il faut grandir et donc se donner les moyens de l'amplitude, et souvent, grandir au cinéma, c'est avoir un peu plus de temps, et le temps au cinéma, c'est de l'argent. Mais effectivement, c'est un film qui est dans une radicalité de production, c'est-à-dire qui met tout l'argent à l'écran aussi, et qui c'est une façon de pouvoir faire précisément ce qu'on veut. Voilà, être précis, c'est important.
Et d'ailleurs, on va rester dans l'imprécision ou la précision de cette première rêverie. Céline Sciamma, vous dites qu'il y avait des scènes qui étaient des boussoles, et moi, quand vous dites ça, j'en ai quelques-unes qui me font peut-être penser qu'elles ont en effet tiré le film avec elles, et je pense à un plan où la comédienne qui joue Marianne, peintre, qui s'apprête à faire donc ses portraits secrets, et plus ou moins plus du tout secrets, arrive sur la plage. Et j'ai vraiment vu Ingrid Bergman qui galère dans Stromboli, qui lutte contre les éléments. Et je me suis dit, tiens, ça c'est marrant parce qu'il y a plein de plans. On est au début du film et c'est ça que je relève. Alors peut-être que c'est un des plans qui tire.
Ah oui, ça me plaît que vous confondiez Stromboli et Bergman, parce que c'est un plan qui évoque aussi beaucoup, dont on me parle beaucoup comme une référence à Jane Campion, qui est absolument d'ailleurs assumée, hein. C'est moins une référence qu'une pensée pour elle. Je trouve ça plus fort, en fait, d'ailleurs, d'avoir une pensée pour elle et pour le film plutôt que d'en faire une citation. Et oui, il y a quelques films avec lesquels on a envie d'entretenir des amitiés. Et Stromboli, on peut totalement en faire partie.
Et ça prend cette forme-là, justement, la relation d'amitié ou la conversation avec d'autres films, quand on est en train d'en fabriquer un soi-même, ça prend la forme de petits cailloux qu'on va laisser à la discrétion des spectatrices et spectateurs, ou bien juste pour soi, de manière plus intime.
Oui, pour moi c'est intime parce que je suis pas du tout dans la question des références.
Ni des citations.
Il y a pour la première fois un plan dans le film qui est une citation d'un plan de Persona, de Bergman. Il est très rapidement devenu un gif sur Internet, donc je suis assez ravie. Et ça vous permet de l'identifier par ailleurs. Mais non, moi j'ai d'ailleurs tendance, quand j'écris, que j'en fabrique des films, à absolument pas voir de films et à essayer de considérer d'être un peu primitive et de considérer qu'il s'agit d'inventer avant tout la langue du film et se débarrasser aussi, c'est difficile parfois, des envies d'être. Je crois que les envies d'être, elles s'incarnent beaucoup, beaucoup dans les clins d'œil qu'on peut faire aux cinéastes et aux films qui nous ont précédés, dont on a été...
D'être autre chose, de faire d'autres films, de faire des choses qui ne soient pas proches de soi.
Oui, et puis de Enfin, proche de soi, si, justement. Justement, je crois être au plus proche de soi, donc se départir un peu des autres et de l'autorité des choses qui sont achevées, d'être obsédé par la nouveauté. Et c'est pas forcément un hubris, hein, ça peut être au contraire, hein, quelque chose de très modeste de dire les films inventent leur langue et puis on va essayer de la parler avec le plus de, en étant le plus joueuse possible et en fabriquant un espace mental dans lequel les spectateurs, les spectatrices se mettent à parler la langue et que ça participe de leur émotion, de contribuer, de donner toute leur intelligence au film. Voilà, moi j'essaie beaucoup de penser comme ça à ce qu'il y a devant moi plutôt que derrière.
Alors, pour vous donner un tout petit colis d'émotion, j'allais dire, tout à l'heure, je me marrais dans le bureau, je revoyais et on me disait « Mais c'est marrant, pourquoi tu rigoles ?» Et j'ai dit, en fait, moi, quand c'est très intelligent comme ça, ça me fait rigoler. Il y a quelque chose de la joie dans ce film-là, Céline Sciamma, qui en finit pour une part d'ailleurs avec la tristesse. La fin du film est aussi un adieu à la tristesse. Et cette joie-là, pour moi, elle passe par le langage.
Oui, je pense que c'est une jubilation de comprendre.
Mais vraiment ?
Ouais, je crois beaucoup à ça, moi aussi. J'ai beaucoup ri, on a beaucoup ri sur le plateau. Je crois que les films ressemblent beaucoup à la façon dont ils sont faits. C'est pour ça que c'est très important, la politique des plateaux, d'ailleurs. Quel espace de création on crée ensemble. Et notamment, la scène de sexe du film. Je crois que les scènes de sexe sont globalement des moments où on rit assez peu sur les plateaux, y compris parce que c'est des moments qui peuvent être violents. En tout cas, c'est des moments où, avec des protocoles violents. Et que là, on était, mais on avait l'impression de faire une blague. Et que je crois que il y a toujours, c'est important qu'il y ait de l'humour dans le sexe, par ailleurs. Et cette scène, elle nous fait toujours rire. Et à Cannes, pendant la projection du film, j'étais assise à côté d'Adèle Haenel et je l'entendais rire pendant cette scène. Et je crois que cette joie, elle est communicative. Je suis ravie que ça vous fasse rire.
Parler une langue neuve, y compris quand on se met à parler de choses très anciennes, il y a les métamorphoses d'Ovide, il y a Orphée Eurydice, il y a bien des choses anciennes dans cette langue neuve que parlent principalement les femmes à votre écran. Céline Sciamma, on écoute Roland Barthes.
C'est un mythe que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup parce que il y a toute une leçon, disons, de sagesse, de morale, de conduite. Ne pas se retourner sur qui on aime. Ne pas se retourner sur qui on aime, marcher devant en sachant que celui-là ou celle-là vous suit et que en la conduisant, on le ou on la sauve, mais ne pas se retourner, ce qui veut dire ne pas vouloir le ou la saisir. Donc c'est un très beau mythe, un mythe très généreux et très sage et très difficile.
C'est peut-être important qu'il termine par dire que c'est très difficile. Roland Barthes, c'est une archive qu'on n'a pas réussi exactement à dater, mais qui a été diffusée en 1986 dans une émission Nuit Magnétique sur France Culture, Céline Sciamma. Je dis qu'il y a des choses anciennes. Orphée Eurydice fait partie, ce mythe-là fait partie des choses anciennes qui sont manipulées par les femmes que vous filmez. Je dis manipulées vraiment parce que c'est comme si elles avaient de la matière, un jeu, quelque chose, des cartes d'ailleurs, elle joue aux cartes. C'est exactement comme ça que vous le traitez. Ça a eu quelle place dans l'écriture et dans la pensée de ce film ?
Alors, ça prend une très grande place aujourd'hui. C'est vraiment un des fils rouges du film. Et il se trouve que c'est la dernière idée d'écriture que j'ai eue. Et sans doute qu'elle est la dernière parce qu'elle manquait. Et que c'est au moment où Orphée, où cette idée d'utiliser le mythe d'Orphée est apparue, et s'est déployée d'un coup, comme ça, mais quasiment en une heure, dans l'écriture d'un scénario qui était déjà établi depuis quelques mois et que je revisitais une dernière fois. C'est là que j'ai compris que le film était fini. Il y a peu de moments d'épiphanie dans l'écriture. Celui-là, c'en était un. Parce que je crois que le mythe d'Orphée, dans le film, en tout cas, il fait le lien entre les deux trames du film. Il y a deux temporalités. Il y a à la fois la chronique d'un amour qui naît, qu'on observe patiemment au présent, dans le trouble, dans le désir, dans l'accomplissement de ce désir. Et puis il y a une deuxième temporalité qui est le souvenir d'un amour. Le film est un grand flashback. Et à travers le mythe d'Orphée, il y a de la contagion entre ces deux temporalités et qui annonce d'ailleurs peut-être la fin. Et par ailleurs, le mythe d'Orphée s'inscrit dans la dynamique du film, de regarder les mythes aussi du point de vue des femmes. Et d'ailleurs, l'autre jour, une spectatrice me posait une question en salle sur le mythe d'Eurydice, et d'un coup, c'était devenu le mythe d'Eurydice. Et puis, c'est une matière, effectivement, c'est une matière à laquelle elles réfléchissent. Et ça, oui. Pour moi, c'était extrêmement important de montrer, à la fois dans l'amour, le dialogue intellectuel, comment tomber amoureux, c'est aussi comprendre la logique, les logiques de pensée de quelqu'un, en être ému, surprise, impressionné. Mais comment dans cette séquence d'amitié, puisqu'elles sont trois, il y a la jeune servante Sophie à débattre dans une soirée que j'imaginais une soirée Netflix, hein, Netflix and chill comme on dit, c'est-à-dire on regarde une fiction, on lit une fiction et puis on la commente. Et des femmes qui ont un débat intellectuel autour de la fiction et chacune a son hypothèse sur pourquoi Orphée s'est-il retourné. Et ça c'était aussi une part importante du film, un des grands plaisirs du film. De mettre ça en scène.
D'autant que c'est aussi un moment où elles abattent leurs cartes avec des enjeux différents. Mais donc, pour rappeler, en effet, il y a cette femme, il y a la femme qui la peint, et puis il y a une femme qui, à mon sens, est extrêmement importante, la tierce personne, mais aussi comme la tierce en musique, qui révèle les deux autres notes, qui leur permet de mettre quelque chose en circulation, et pas que le désir. Et dans ce moment où elles discutent de pourquoi Orphée se retourne pour regarder Eurydice, elles se disent aussi des choses. Et ça, c'est très beau, parce que quand je dis que c'est une matière, c'est les textes, le poème et les mythes, ça permet d'adresser des choses au présent. Et en faisant l'hypothèse que Orphée fait le choix du poète et non de l'amoureux, elles se disent des choses.
Oui, je dis des choses aussi.
Et vous dites des choses aussi. Mais quand elle répond que peut-être c'est Eurydice qui lui demande de se retourner, vous lui faites dire des choses en face.
Oui. Oui, oui, j'aurais à cœur de ne pas commenter parce que je crois que ça dit beaucoup et que c'est, j'ai quasiment un réflexe de pudeur.
J'entends bien. Et est-ce que vous avez craint justement, parce que c'est un film qui peut dans sa pensée être tellement intime, singulier par la pensée qu'il propose, est-ce que vous avez craint d'être impudique? Je parle bien de la pensée, hein, Céline Sciamma.
Bien sûr. C'est une crainte, c'est une bonne peur, je crois. Et surtout quand on considère que c'est un des grands adages du féminisme, d'ailleurs, que l'intime est politique. Donc peut-être que plus on est intime, plus on est politique.
Donc vous n'avez pas craint de l'être trop ?
Non. Je n'ai pas craint de l'être trop, je crois que je ne suis pas trop, y compris parce que... parce que nous sommes nombreux et nombreux à avoir pensé ce film et l'avoir fabriqué, et que je crois que cette œuvre collective aussi, elle, voilà, plus on est nombreux, moins on a peur, et surtout moins on est sur soi. Moi, j'ai l'impression que c'est le point de départ, quoi, parce que c'est offert que le film n'a pas le secret de son intimité. Au contraire, d'ailleurs, il n'a pas de secret. Je crois qu'il Au contraire, il dit, et que le secret est un point de départ du film dramaturgique, mais que, comme souvent d'ailleurs dans mes films, mais que il ne dure pas cette fois, et qu'il est le réservoir de ce qui va se dire.
Et d'ailleurs, peut-être qu'une des choses qui révèle le collectif, les collaborations, la pensée à plusieurs, qui se révèle à l'écran, c'est que ça n'est jamais complètement fini, ça n'est jamais univoque, c'est toujours très complexe. C'est-à-dire que, par exemple, pour ne prendre que cette discussion autour du mythe d'Eurydice, eh ben, personne n'est exactement d'accord, et ça reste en l'état.
Oui. Et je vois que le débat continue ensuite. C'est vrai que j'ai la chance et la tâche d'accompagner le film dans les salles. J'en suis à une quinzaine d'échanges avec le public. Et c'est des échanges qui ressemblent à des réflexions. Et où chacun peut s'emparer de ce qu'il console aussi. Il y a plusieurs moments consolatoires dans le film qui a cette dynamique, qui est une dynamique lumineuse.
On écoute Stanley Kubrick, justement, sur la lumière.
I've always been very bothered by in period films is the light on interiors. L'éclairage des films historiques m'a toujours semblé très faux. Une pièce entièrement éclairée aux bougies, c'est très beau et complètement différent de ce qu'on voyait d'habitude au cinéma. J'ai fini par trouver un certain objectif. J'ai fait adapter une caméra spécialement pour ces scènes nocturnes, qui sont très belles, je trouve.
John Alcott said in American Cinematographer that somehow it was impossible sometimes to have.
Votre directeur de la photographie a expliqué qu'il était souvent impossible d'utiliser la lumière naturelle.
Mais c'est le cas aussi si vous filmez dans ce bureau.
You might have a very weak fill-in light because the light from the window is, you know, would be too contrasty. Well, with the candles, we had.
Car la lumière naturelle serait très contrastée à cause de la fenêtre. Dans les scènes éclairées à la bougie, nous avons utilisé un très faible éclairage complémentaire venant du plafond. Mais la source principale a toujours été les bougies.
Et pour les scènes de jour ?
Pour les scènes de jour, nous éclairions les pièces de l'extérieur. À moins de vouloir faire un film irréaliste, il faut rechercher dans l'éclairage, les décors et les costumes, les conditions maximales du réalisme. C'est un point de départ.
On est en 1975, très probablement. Ce sont les entretiens qui ont été diffusés ensuite dans l'émission À Voix Nue, Stanley Kubrick, qui parle de la lumière, d'une recherche de vérité, en tout cas. Vous disiez tout à l'heure qu'un des enjeux dans la reconstitution de ce 18e siècle, de ce bord de mer, mais aussi de l'endroit où vivent ces femmes-là, était un enjeu important. Comment justement vous avez travaillé avec Claire Maton pour qu'il y ait pour vous une poétique de ça, très très à l'œuvre à l'écran, Céline Sciamma?
Eh bien, on s'est beaucoup posé la même question que Stanley Kubrick, y compris parce qu'il se l'était extrêmement bien posé et que ses réponses nous renseignaient, on s'en sentait proche à 40 ans d'écart. Le grand enjeu, effectivement, c'est la question de la bougie, c'est la question de la nuit. Et la grande question, c'est est-ce que la source lumineuse est à l'image ou dans l'image ou à côté. Nous, on avait la phobie du chandelier. Il y en a pas.
Il y a plein de cheminées.
Mais il y a plein de cheminées qui est aussi une source. Mais globalement, il y a toujours. Et puis, c'est aussi respecter la sociologie de ces femmes, de cette petite aristocratie. La bougie, c'est cher. Donc, il y a très très peu de sources in, comme on dit. Et puis, on n'a pas éclairé vraiment avec les bougies, voilà, contrairement à ce que raconte Stanley Kubrick. On a inventé, le chef électro a inventé toutes sortes d'accessoires qui faisaient bougie, et il fallait en même temps faire vibrer, mettre les bougies dans des bols pour faire vibrer leurs flammes. Enfin, on était souvent entouré de dizaines et de dizaines de rampes, de petites guirlandes lumineuses. C'était très très impressionnant. Les actrices pouvaient être, pour juste une scène où on se dit qu'il y a une source lumineuse, encerclée d'objets inventés pour inventer cette lumière. C'est un travail extrêmement impressionnant, je dois dire. Donc je suis très très admirative.
C'est marrant, tout à l'heure vous parliez de politique de plateau, je repense à ça. C'est étonnant de se dire pour une scène où on a l'impression qu'il n'y a qu'une bougie, en fait, il y avait une masse d'inventions qui étaient à l'œuvre, quoi. Ça aussi, c'est de la politique de plateau.
Complètement. Et d'autant qu'en plus, on tournait beaucoup en plan séquence, donc avec les personnages qui sont mobiles, hein, des plans séquences mobiles, beaucoup de travelling où on les accompagne. Et donc, traverser une pièce la nuit, en tenant une bougie, et d'aller d'une source lumineuse à l'autre, c'était des heures et des heures de mise en place. Et c'était un travail d'une précision folle.
Vous êtes où pendant ce temps-là?
Je fume des cigarettes dans la cour du château et je reviens ponctuellement observer comment tout ça se construit et je réfléchis à la scène, je me concentre sur ce que je vais dire aux comédiennes et je fais grande autant je suis extrêmement j'arrive beaucoup avec toujours même avec l'idée du cadre autant sur la lumière, c'est une délégation totale au moment du tournage et donc aussi un plaisir quasiment enfantin
dans
le plateau et découvrir le dispositif mis en place pour la beauté.
Il est question aussi dans la voix de Kubrick des décors et des costumes et on sent qu'il y a eu un enjeu aussi là-dedans, mais qui est pas que un enjeu de narration ni un enjeu de véracité historique. C'est assez confus peut-être, moi c'est trop frais dans ma tête de le dire, mais il y a une place très forte à ces endroits, à la matière de la table, les verres, le vin, même la nourriture, comme s'il y avait une présence rayonnante de tout ça dans votre écriture.
Oui, ça aussi c'est un grand travail de précision, j'ai choisi les repas très précisément, donc il n'y a aucune volonté d'anachronisme, mais il y a aussi une volonté de réincarner. Et donc de pas être obsédé par la question de l'accessoirisation à outrance qui donnerait de la vérité au lieu. Il y a un dénuement, un travail sur les matières. Il se trouve que c'est le décor sur lequel c'est un paradoxe, mais sur lequel on est le moins intervenu depuis tous les films. Alors qu'on pourrait imaginer que des chambres d'adolescentes de la périphérie parisienne sont trouvées dans leur jus, alors qu'en réalité c'est quasiment des conditions de studio, d'intervention très forte sur les couleurs. Là, je suis rentrée dans ce château et nous n'avons rien touché, les murs, c'est la couleur des murs, les boiseries. Donc il s'agit d'intervenir très très ponctuellement sur des matières. On a choisi des tissus qui étaient plutôt dans du coton, dans du lin. On a choisi des bois. On est sur il n'y a pas de mobilier. Ou alors il a été construit. Je suis ravie que vous soyez sensible à la matière de cette table de cuisine qui est totalement inventée. Il y avait vraiment la volonté sans anachronisme de créer cette maison. Qui soit pas un décor. Même chose sur les costumes, on a évacué les matières brillantes. Il y a une robe un peu fétichisée dans le film qui est la robe du modèle, qui est une robe de soie. On est habitué au soie dans les reconstitutions dans cette époque, dans l'idée qu'on s'en fait. Et on a vraiment travaillé sur des matières très lourdes qui d'ailleurs engageaient aussi le corps des comédiennes.
Leur effort,
leur façon de se déplacer. Et puis, c'est un niveau d'intervention qui est magnifique. Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment l'impression de faire de l'hyper-cinéma, de faire le comble de mon travail. Quand on invente la silhouette totalement d'un personnage, et le personnage de Marianne notamment, c'était très important pour moi qu'elle ait des poches. Et qu'elle puisse mettre les mains dans ses poches. Avec Noémie Merlant, vraiment, on avait comme ça un herbier de la façon dont le personnage allait se déplacer, quand est-ce qu'elle allait mettre les mains dans les poches ou non. Cette silhouette peut sembler totalement anachronique, on pourrait voir une volonté de ma part de faire modernité, mais il se trouve qu'à l'époque, les poches étaient encore autorisées, qu'elles ont été ensuite bannies du vestiaire féminin au 19e siècle, comme bien des choses d'ailleurs ont été arrêtées au 19e siècle pour les femmes, et qu'on ne les a pas encore tout à fait récupérées, nos poches d'ailleurs.
Et que ça change tout en fait, c'est-à-dire qu'entre une femme qui arrive sur la plage la nuit avec les mains dans les poches, et qui a donc une manière de pouvoir être dans cet endroit... Je sais pas comment dire, en y étant libre, quoi. Je sais pas pourquoi. Avoir les mains dans les poches, en fait, c'est la possibilité de marcher sur la plage librement.
Absolument, mais les poches ont été bannies parce que c'était une façon pour les femmes de cacher des choses, donc d'avoir des secrets. Et donc, voilà, avoir les mains dans les poches, c'est peut-être avoir le droit à tout, à son intimité, à son... En tout cas, moi, c'était... Ça, c'était super important, ouais. Donc voilà, parfois c'est des choses comme ça qui sont absolument décisives en réalité. Et tout a été pensé dans cette symbiose, dans cette circulation des enjeux entre les différents, entre la décoration, l'accessoirisation et le costume, quoi.
Puisqu'on parle de mains et de tissus, il y a une scène très importante dans l'évolution. J'essaye aussi de pas en dire trop quand même entre ces trois femmes-là. Mais il y a quelque chose qui se déplace, qui se métamorphose entre elles. Mais il y a une scène où les mains vont sous du tissu chercher les touches d'un clavier pour faire de la musique.
France Culture. Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau que j'aime. C'est joyeux? Ce n'est pas joyeux, mais c'est vivant. Ça raconte l'histoire d'un orage qui monte. Et des insectes qui le sentent. Il s'agite. Et la tempête qui éclate. Avec les éclairs et le vent. Vous entendrez la suite. Milan est une ville de musique.
C'est une chose à laquelle vous avez été très fidèle. Il y aurait du Vivaldi dans ce film, Céline Sciamma, et il y a en effet du Vivaldi dans ce film. Elles se demandent l'une et l'autre si c'est joyeux, et elles finissent par conclure que c'est vivant. Et il me semble que ce sont les deux polarités de ce film-là. Et qu'on tangue tout le temps, sans décider si c'est mieux que ce soit joyeux ou si c'est mieux que ce soit vivant, les choses dans la vie.
j'aime bien votre analyse. Ouais. Je réfléchis, du coup, oui, c'est vrai. De toute façon, je crois que le film, il est dans des... Il met en tension des sentiments plutôt que des personnages. Et qu'il est un film d'amour sans conflit. Et que donc, voilà, l'absence de conflit et la présence d'égalité permet d'avoir une conversation peut-être plus profonde, en tout cas nouvelle, sur les différents sentiments qui nous habitent, les différentes dynamiques amoureuses qui sont possibles, hein, forcément, si on s'évite des anciennes négociations, si on s'évite des rapports qui écrivent déjà l'histoire, on peut peut-être aller plus loin dans son écriture et dans sa pensée.
Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on oublie, mais qui est prononcé par l'une des femmes que vous filmez. L'égalité est un sentiment doux à vivre.
Bah, on l'oublie parce qu'on ne vit pas. On ne vit pas souvent. Enfin, heureusement, moi, je crois que de toute façon, nos utopies, elles ne sont pas des rêves déconnectés de nos vies. Je crois que nos utopies s'appuient sur des moments que l'on vit. Donc, vous avez raison, on a accès à ces sentiments. Voilà, la douceur de vivre, l'égalité... Ou l'égalité comme douceur de vivre. Moi, j'y ai accès dans ma vie parce que j'ai la chance d'avoir des communautés, voilà, amicales, militantes, ou des communautés d'esprit, même avec des gens que je ne connais pas, où d'un coup, on respire. Donc, je crois que nos rêves s'appuient sur des choses que l'on vit. Nos désirs s'incarnent. Donc, on oublie, mais enfin, c'est surtout qu'on a peu l'opportunité.
Et un film, c'est le lieu pour le mettre en œuvre de manière extrêmement concrète. C'est-à-dire que non seulement cette femme qui peint et cette femme qui est peinte dans la première définition de leur rapport, non seulement elles viennent à égalité sur un terrain qui devient le leur et qui est un terrain d'invention, mais en plus elles introduisent une troisième femme qu'elles mettent à égalité et qui est la servante. Et il me semble que justement la place de cette troisième femme qu'elles mettent à égalité a un rôle extrêmement important. Vous sauriez dire lequel, Céline Sciamma ?
C'est la puissance de la sororité qui permet d'abolir une hiérarchie sociale. Et puis c'est dans la fiction, en tout cas, l'idée de sortir des conventions. Voilà, ce personnage de servante ne sera jamais un personnage de servante. D'ailleurs, on ne la voit pas porter des choses sur des plateaux. On ne la voit pas. Elle n'est jamais figurante. Elle se départ du coup de cet emploi, y compris même du théâtre de cette époque et de l'époque précédente. Elle est un personnage qui existe à partir du moment où il a un projet, un désir. Et donc c'est aussi la fiction qui les met à l'égalité, parce qu'on ne regarde pas, on ne la regarde pas au moment où elle ne prend pas la parole.
Je pense qu'il faut quand même dire que cette femme-là va décider d'avorter, en tout cas va décider qu'elle n'a pas envie d'un enfant. Et il me semble que quand vous dites, quand on s'épargne d'anciennes négociations, quand on s'épargne d'anciennes manières de faire, il y a des choses nouvelles qui adviennent. Alors bien sûr, il faut quand même dire que votre écriture de la fiction, elle permet ça, et que parfois peut-être l'important n'est pas d'aller au plus près du réalisme. Je pense à la scène de l'avortement, qui est une scène à mon sens extraordinairement belle, mais belle de tendresse. Cette femme qui est probablement en train de souffrir dans son corps, peut-être aussi, je ne sais pas, souffrir dans son être, on lui caresse le visage, et la personne qui lui caresse le visage a moins d'un an, probablement. Mais ça, si ce n'est pas une nouvelle façon d'écrire des choses...
Oui, et c'est très important, surtout dans cette scène, alors même que c'est une scène... Voilà, il y a très peu de représentation de l'avortement dans l'histoire de l'art. C'est Annie Ernaux qui a cette phrase et qui dit « Il n'y a pas un musée du monde dans lequel il y a un tableau qui s'appelle La faiseuse d'anges ». Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le film, on se pose la question de la représentation de ça. Doublement, on ne va pas trop raconter, mais c'est inclus. Et ce n'est pas parce qu'on s'apprête à représenter quelque chose qui l'a peut été, qu'il s'agit purement de l'enregistrer, de ne pas par ailleurs inventer une image qui appartiendrait au film et qui serait une image par ailleurs avec beaucoup de niveaux de lecture, ce qui c'est donc une image poétique dans laquelle on peut toutes et tous se retrouver, imaginer
et différemment. C'est ça qui est important.
Bien sûr.
Et différemment, parce qu'il y a plein de manières de lire la main d'un petit nourrisson qui caresse la main d'une toute jeune femme en train de se faire avorter. Plein.
Plein, oui. Et par rapport à au vécu de chacun et chacune sur cette question, sur la question d'avoir des enfants, de ne pas en avoir, d'avoir ce qu'on veut, surtout.
Vous peignez des modèles nus aussi ?
Des femmes, oui.
Pourquoi pas des hommes ?
Je n'ai pas le droit.
Pourquoi ?
Parce que je suis une femme.
C'est une question de pudeur ?
C'est surtout une façon de nous empêcher de faire de la grande peinture. Sans notion de l'anatomie masculine, toute la gamme des grands sujets nous échappe.
Comment faites-vous ?
Je le fais en secret. C'est toléré.
Que dites-vous à vos modèles pour les distraire ?
Vous vous ennuyez ?
Non. Je m'intéresse à vous.
Vous avez un teint remarquable aujourd'hui. Vous êtes très élégante. Vous êtes à merveille. Vous êtes jolie. Voilà ce que je leur dis.
Elles sont malines, elles sont drôles et elles sont intelligentes. C'est Noémie Merlant et Adèle Haenel qui se font face dans une scène de peinture qui est une scène de plein de choses en fait. Qui est une scène de réflexion, une scène d'amour déjà, une scène de séduction, une scène intelligente. Et je me suis dit, il y a quelque chose au milieu de cette écriture qui procède de l'écriture, qui est le rythme. Comment vous avez pensé le rythme de ce film-là, Céline Sciamma ?
Alors c'est la grande obsession de la mise en scène, le rythme en fou, on pourrait résumer, on pourrait dire que ça synthétise toutes les questions. Et d'ailleurs, entendre les extraits à la radio, ça met tout à fait en valeur la dynamique, c'est bizarre comme l'image, enfin ça met en valeur la dynamique un peu SMR du film. Et surtout tout le travail du son, on entend le pas de la peintre qui se recule, on entend un peu le pinceau sur la toile et on entend leur souffle. Et c'est ça qui fait le rythme aussi. Bien sûr, il y a le rythme des dialogues, qui est le rythme à la fois du jeu et du montage. Mais pour moi, il y a toute une musicalité. Surtout que là, on est dans une situation, dans un dispositif de chant contre chant, donc quelque chose qui est assez statique, puisqu'il y a la peintre et puis le modèle. Et ça, cette dynamique-là statique, elle impose de trouver une musicalité partout. D'autant que cette question de la musicalité, dans un film qui présente peu de musique, en tout cas qui n'a pas de score, qui n'a pas de bande originale, voilà, il y a des moments musicaux, vous en avez parlé, voilà, ça implique un rythme qui est ailleurs. Et moi, c'est vrai que ma solution, c'est souvent de penser en termes de tempo, et donc aussi d'être extrêmement précise, notamment sur les déplacements, c'est-à-dire y aller en six pas, vraiment, d'être vraiment de trouver le rythme en faisant... Voilà, et que c'est ça les indications qu'on donne aux comédiennes aussi. Ça, c'est 8 pas jusqu'ici, et tu marches comme ça. Et y compris même sur le souffle, par exemple, finir sur une expiration ou une inspiration, ça n'est pas la même chose, et ça, c'est des indications qu'on donne aussi. Et même les regards peuvent être...
Et qui sont écrits depuis longtemps ?
Oui, qui sont écrits, et puis surtout qu'on trouve sur le moment, hein, et c'est toujours, en fait, on pense à des solutions globales quand on écrit le film et qu'on pense à la mise en scène, et et puis ensuite chaque jour on trouve la solution locale. Et c'est comme ça que la langue s'enrichit. Moi en tout cas j'ai pensé un film en écho, donc comme une langue qui se répète aussi plutôt que par grand contraste. Et de voilà, de aussi pouvoir chorégraphier les regards, de pouvoir dire ah non, il me regarde là, baisse les yeux, respire par la bouche. Voilà, c'est toutes ces choses qui sont des chorégraphies de du visage aussi, et qui font toute la matière du film.
Avant qu'on revienne sur ce qu'elles disent là d'important aussi, à savoir qu'est-ce que les femmes ont eu le droit de peindre, qu'est-ce qu'elles ont eu le droit de représenter, qu'est-ce qu'elles ont fait en secret, je disais qu'elles étaient drôles. Je le dis beaucoup, mais parce que pour moi, c'est vraiment une dimension extrêmement importante. D'autant qu'elles finissent par en parler, mettre du temps à être drôle, qu'il faut être deux pour être drôle, et que quand on met du temps à être drôle, bah peut-être on est en train d'en perdre un peu. Est-ce que vous le pensez aussi, Céline Sciamma ?
Qu'on est en train de perdre du temps, vous
quand on n'est pas drôle.
Quand on n'est pas drôle, oui. Oui, bah l'humour, c'est peut-être c'est l'intelligence dans toute sa profondeur, mais qui a l'élégance de la légèreté. Je crois que une grande partie du dialogue amoureux peut se raconter à travers l'humour. Je crois que c'est l'endroit où on invente souvent sa langue dans un duo ou même dans un groupe amical, hein, puisque pour moi c'est proche. Et donc cette question et c'est vrai que c'est un endroit qu'on peut aimer seul. On peut faire plein de choses seul. Mais l'humour, ça réclame l'autre. Et c'est peut-être pour ça que c'est si important.
Dans ce qu'elles disent, toutes les deux, sur ce qu'elle ne peut pas peindre, cette peintre femme, il y a, à mon sens, quelque chose que vous prenez pas soin de déplier trop, qui est peut-être votre propre recherche sur ce sujet-là, les femmes peintres, le 18e, etc. Si le film ne s'embarrasse pas de trop le déplier thématiquement, est-ce que vous, vous y êtes allé, vous avez plongé dans de la documentation précise,
Céline? Oui, bien sûr. C'était très important parce que surtout j'étais totalement ignorante, alors même que j'avais décidé que le personnage principal serait une peintre et que je connaissais évidemment l'existence des quelques stars qui ont résisté à l'effacement de l'histoire de l'art. Elisabeth Vigier-Lebrun, qui était la peintre attitrée de Marie-Antoinette, qui a ôté les femmes, les corsets des femmes dans les peintures, ou Artemisia Gentileschi, ou Angelica Kaufmann pour l'Angleterre. J'étais absolument ignorante du caractère, à quel point elles étaient en réalité nombreuses, des centaines. J'ai travaillé notamment avec une chercheuse qui s'appelle Séverine Sofio, qui a écrit un livre qui s'appelle La parenthèse enchantée. C'est un moment vraiment de où elles sont des centaines, où elles travaillent beaucoup, où elles sont reconnues, où même certaines exposent au salon. Il y a le travail de Marie-Jo Bonnet aussi sur cette question. Et du coup, j'ai plongé dans leur corpus aussi, de regarder leurs œuvres. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'en inventer une. C'était pour penser à toutes. Et il se trouve qu'ensuite, il y a eu... Voilà, on fait comme si les progrès dans les opportunités qui nous étaient offertes, et même dans nos droits, étaient toujours linéaires. Mais il y a eu ensuite un backlash. Et un backlash qui fait qu'il y ait moins d'opportunités. Et c'est la question des opportunités que raconte cette séquence dans l'idée de l'interdit. Voilà, ces femmes étaient quand même globalement des compagnes de peintres, ou des sœurs de peintres, ou des belles-sœurs de peintres. Il y a eu quand même quelques artistes qui étaient politisés, qui se sont engagés là-dessus, et qui ont ouvert leurs ateliers. Les femmes, évidemment, mais aussi David, par exemple. Donc c'est un moment aussi de revendication du statut d'artiste. Il y a aussi une critique d'art féminine et féministe. Et je trouve que c'est intéressant à regarder aujourd'hui.
Parce que c'est ça qui finit par être entre deux ou entre elles trois, c'est l'art. C'est la puissance de représentation, c'est aussi la puissance d'émotion, c'est à quel endroit on est aussi en contact avec notre propre puissance d'individu quand on est au contact avec ses émotions, et combien ça s'est enlevé à une partie de la population qui, en l'occurrence là, est les femmes. Mais on pourrait trouver plein d'exemples contemporains qui seraient plein d'autres gens, qui ne seraient pas nécessairement des femmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est dit, Céline Sciamma, que c'est une puissance politique, l'émotion, que c'est une puissance d'action, de pouvoir être ému par de l'art.
Oui, et d'avoir une transmission aussi de voilà, l'art, c'est pas seulement quand moi j'ai découvert le corpus de ces peintres femmes, je me suis dit qu'il manquait à l'histoire de l'art, mais je me suis aussi dit qu'il manquait à ma vie, qu'il manquait à nos vies, parce que c'est comme voilà, il y a pas suffisamment de romans qui racontent ce que c'était que le cœur, les tourments, les désirs, même la citoyenneté des femmes qui nous ont précédées. Et nous couper de ça, c'est un programme politique, ce n'est pas un hasard. Donc on est en déficit de transmission de notre histoire et donc aussi de nos intimités et de nos émotions. Et voilà, le cinéma, parfois, ça peut redonner un peu de mémoire.
Oui, parce que vous parliez tout à l'heure des capacités de consolation que peut porter ce film-là. Ça en fait partie. Le fait d'avoir pendant 2 heures quasiment uniquement des femmes à l'écran, des femmes qui pensent, des femmes qui jouissent, des femmes qui rient, des femmes qui courent sur la plage, et l'apparition d'un homme que j'ai éclaté de rire tellement elle est grotesque, ça fait partie de la consolation ?
Oui, bien sûr, de la réparation et d'une consolation qui est dynamique, c'est-à-dire on n'est pas en train de pleurnicher, on a juste envie de vivre pleinement notre vie. On n'est pas en train de faire de mendier et c'est consolatoire parce que c'est déflagratoire. Parce qu'en fait, c'est quasiment là aussi humoristique. Adèle Haenel, elle le dit très bien, elle dit que le film est vraiment très humoristique, parce que en fait, il montre à quel point ce serait simple, parce qu'il décide, même s'il raconte un cadre très oppressif, même s'il raconte un amour impossible, il est complètement dans le potentiel, on ne regarde que ce qui est possible, que ce qui existe, on ne regarde que la puissance. Et donc, c'est une consolation qui donne de l'élan et qui est quasiment physique. Je crois qu'elle donne de l'énergie. En tout cas, moi,
vous diriez que ça filme un amour impossible ?
Alors non, moi je ne pense pas à tout ça, mais l'histoire d'amour est de fait impossible et je vois bien que dans mon exercice de promotion, on me dit beaucoup que c'est un amour impossible.
Mais c'est pas du tout un amour impossible.
Bah, c'est un amour possible, moi je suis d'accord. Mais dans l'absolu, il rentre dans ce grand geste des grandes amoureuses et des grands amoureux qui ne vieilliront pas ensemble. Mais bon, ça, est-ce que c'est ça l'amour ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie du film qui dit que peut-être ne pas vieillir ensemble, c'est pas forcément que l'amour n'est pas possible.
De toute façon, le film propose une politique de l'amour qui sort des canons de habituels, c'est-à-dire de la possession, qui sort du ni avec toi ni sans toi, qui raconte l'amour comme une dynamique émancipatrice et donc de liberté, et qui surtout raconte comment l'empreinte de l'autre est possiblement une empreinte, un espace laissé par son absence. Permet de se remplir d'autres choses, et notamment d'art. Comment nos amours sont la condition de nos curiosités futures, que ce soit pour les œuvres, les émotions, ou tout simplement d'autres amours.
Et ça boucle la boucle avec le début de notre entretien, Céline Sciamma, puisqu'il y a la mer, il y a le feu, et il y a des femmes qui chantent. Ça faisait partie des choses, des premières notes écrites, et qui ont présidé à l'écriture de Portrait d'une jeune fille en feu. Alors ce feu du titre, qui est là depuis le départ, vous l'entendez comment ?
Je l'entends... Je l'entends comme le feu... Alors, il y a le feu entre elles, il y a quelque chose qui s'embrase, mais c'est le feu en chacune. Le feu en chacune.
Et donc aussi le feu en partage.
Le feu en partage, le feu des sorcières. Moi, j'aimais la circulation, l'imaginaire. L'imaginaire autour du feu et comment on allait pouvoir le faire courir tout au long du film. Et c'est comme s'il y avait... Alors, il y a quasiment... Il n'y a pas du feu dans toutes les scènes, mais en tout
pas
cas...
Loin.
Pas loin. Et que c'est comme une flamme qui passe de scène en scène et qui raconte différentes choses. Qui raconte l'amour, qui raconte la passion, qui raconte le collectif, qui raconte la lumière, qui raconte... Enfin, et cette flamme, c'est comme la flamme olympique. Elle passe de main en main. Et voilà, psychanalyse du feu.
Je me suis dit, c'est peut-être le cas à la fin de chaque film, mais je me suis dit, elle pourra jamais plus faire du cinéma comme avant, après ce film-là.
C'est vrai. C'est vrai, et j'ai aucune idée d'ailleurs de... D'où j'irai, parce que j'attends aussi de prendre des nouvelles de ça, et de mettre le film dans le monde, et que le monde donne de ses nouvelles, et des nouvelles du film. Mais c'est bien, je crois, de ne pas savoir du tout où aller, si ce sera du cinéma, si ce sera autre chose. En tout cas, c'est un film qui m'a rendue heureuse et c'est un moment important. Donc je suis contente de ne penser qu'à ça.
Je voulais dire au revoir sur la musique aujourd'hui à Céline Sciamma. Merci beaucoup. Ce film est en salle la semaine prochaine, mercredi, et vous serez aussi au Matin de France Culture. Portrait de la jeune fille en feu. Je voulais juste dire donc Noémie Merlant, Adèle Haenel, mais aussi Valeria Golino et Louana, comment dit ?
Bajrami.
Au son, ce soir, c'était Valentin Bobinet, à la réalisation Lise-Marie Barré, Par les temps qui courent, Lucie Riandet, Marianne Chassor, Romain Debecq de Lièvre, Jeanne Aléos. Dans un instant, c'est le journal, si vous restez, 22h sur France Culture, très belle soirée. Tout le reste, franceculture.fr.